Alors aujourd'hui, c'est la dernière. Enfin, la dernière en ce qui me concerne. Vous avez suivi un peu le chemin d'un musicien certes désenvoûté, mais aussi enchanté de vous proposer des pistes de réflexion sur la musique, qui est, selon Weber, on va rester un peu là-dessus pour démarrer, le plus rationnel et le plus irrationnel de tous les arts. Ça marche assez bien. Nous avons vu que écouter, ce n'est pas voir. Et il y avait la figure, j'ai parlé de la figure d'Homère qui était représentée dans l'Empire romain. Il y avait un buste d'Homère qui était aveugle. Donc être aveugle, c'est aussi valorisé parce que c'est basé sur l'écoute, c'est basé sur d'autres sens. Mais ce n'est pas voir puisque l'œil est très classant. J'en avais déjà parlé. J'ai aussi dit qu'il existait, qu'on le veuille ou non, une hiérarchie entre les arts. Hiérarchie non naturelle, mais historiquement construite, accumulée. Que les choses de l'âme, les émotions indescriptibles, sont aussi les choses du corps. La danse en est une preuve évidente. Que les goûts musicaux qui paraissent livrer beaucoup de choses intimes livrent aussi des appartenances sociales, un corps social avec ses possessions, ses propriétés, ses biens, c'est la définition du goût. Et le goût, c'est aussi le dégoût du goût des autres. J'ai essayé de vous faire sentir que l'effort de rupture avec nos enracinements sociaux peut donner aussi la satisfaction d'un voyage personnel réussi, plein de bonnes surprises pour la connaissance critique de soi, des autres, des mondes dans lesquels sont insérés les autres, dans lesquels je suis inséré, aujourd'hui, comme hier, et sans doute pour demain. Oui, l'art et la sociologie peuvent faire bon ménage, mais sans ménagement. La pratique intensive de leur amitié a pour effet de proposer le dévoilement d'un impensé et d'anticiper un imprévu. Elle donne un sérieux coup de main pour comprendre comment créer la création, comment imaginer l'imagination. Elle offre aussi, cette amitié, la possibilité de mieux comprendre ce qui est en jeu dans les mondes sociaux. Tout un programme. Car se donner des chances de rompre avec la pratique de nos classements, c'est aussi les expérimenter pour les repérer, les identifier pour les penser. Et ça, je vous accorde que c'est du luxe. C'est un peu ce que disait Flaubert, il disait que l'écrivain est un ouvrier de luxe. J'en reparlerai tout à l'heure. Car il faut avoir intérêt à le faire, à identifier pour penser, à expérimenter pour repérer tous ces classements, pour que cela puisse être valide, mais aussi vivable. Critiquer, quand on le vit, quand c'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas évident. C'est difficile. On attend toujours de vivre des événements bouleversants avant de les traiter ou de les penser. Et je pose la question, quelles sont ces choses à ce point puissantes qui nous résistent, qui empêchent de nous sentir autorisés à penser l'impensable, à imaginer ce qu'on n'a pas vécu. Dans ce sens, la proposition de Flaubert de pouvoir vivre toutes les vies est très sérieuse. C'est une position, une posture critique inventée aussi par le philosophe, le sociologue et l'artiste. Si les premiers sont des penseurs, ce dernier, l'artiste, est une machine à faire penser et les deux cumulés transforment notre autocensure en gai savoir et laissent place à une création libérée. Et j'en viens au sujet d'aujourd'hui. La vie d'artiste et sa réalité. Je n'ai pas dit et son réalisme. Mais avant de traiter de son engagement, de la contestation ou d'une position critique, je vais vous parler de la passion. Souvent chevillée à la pratique artistique de la musique. Car oui, on ne naît pas musicien. Et avant d'être un musicien professionnel, avant d'en faire son métier, de faire carrière ou de répondre à une vocation, l'apprenti musicien est un individu qui pratique une activité dite culturelle dans une société pourvue d'équipements culturels. De plus, les pratiques artistiques sont aussi des pratiques de loisirs qui conviennent parfaitement à une pratique musicale qu'on appelle pratique musicale amateur, elle aussi pratique culturelle. Comment est-elle transmise cette pratique culturelle et qui y a accès ? La pratique musicale amateur est une longue tradition Et dans le domaine du spectacle vivant, elle est la pratique artistique majoritaire chez les Français de plus de 15 ans. Près de 10 millions d'entre eux font de la musique pendant leur loisir. Les fédérations comme À Cœur Joie, la Confédération Musicale de France, la Confédération Française des Batteurs de Fanfare et l'Union des Fanfares de France poursuivent une tradition d'une remarquable vitalité et restent aujourd'hui les héritières emblématiques d'un mouvement né il y a plus de 150 ans et qui visait à organiser les pratiques musicales des amateurs. Il n'y a pas que le chant choral et les harmonies, il y a aussi des pratiques qui n'ont cessé de s'étendre et de se diversifier. On les connaît tous, chansons, jazz, musique traditionnelle, rock, rap, techno, et plus récemment les musiques dites électroniques. Toutes participent aujourd'hui d'un même mouvement qui s'inscrit dans la création de nouvelles musiques. Ainsi, le champ d'intervention des pouvoirs publics s'est progressivement élargi à l'ensemble des pratiques collectives, associatives, mais aussi des pratiques individuelles. Je suis intéressé pour prendre des cours de chant, je vais aller dans une MJC ou une association pour apprendre à chanter, ou en tout cas me retrouver avec des gens qui aiment chanter. Souvent, ce qui est soulevé dans les associations de chorale, les associations de chœur, c'est la passion de la musique, la passion de chanter ensemble. Olivier Donat, qui travaille au département d'études de la prospective et des statistiques, a écrit Les pratiques culturelles des Français, et je vais vous donner quelques chiffres, mais ce sont des chiffres qui vont illustrer mon propos, ce ne sont pas simplement des statistiques sorties de leur contexte. Ça nous indiquera ces pratiques artistiques amateurs, parce que comme je le disais, l'argument c'est, avant d'être un musicien professionnel, on n'est pas un musicien professionnel de suite. On fait des pratiques de loisirs, on pratique en amateur. Plus de la moitié des passions culturelles sont transmises par les parents. 54% des personnes qui reçoivent une passion culturelle l'ont reçue de leur père ou de leur mère, ce qui place la culture sur ce point sensiblement au même niveau que la plupart des autres activités de loisirs, tels le bricolage, le jardinage, la couture, la chasse ou la pêche, et légèrement au-dessus du sport, où l'influence des amis et des voisins est sensiblement plus importante. C'est dans le domaine de la lecture, 65%, et de la musique, 57%, que l'influence des parents s'exerce avec le plus de force, et dans celui du spectacle vivant, qu'elle est le moins prégnante, 45%. Surtout parce que celle des voisins et amis est plus forte. 18% des passions ont été transmises par leur intermédiaire dans le domaine du spectacle vivant, contre 16% dans celui de la lecture, par exemple. Donc, une importance souvent déterminante du contexte familial sur la transmission des passions culturelles. Ces transmissions de passions culturelles ne sont pas claires, c'est-à-dire ce sont des influences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon père est musicien que je vais être musicien, il y a de fortes chances, certes, mais ce n'est pas parce que ma mère joue du piano que je vais pratiquer de la musique. On peut, enfin, bien sûr que c'est ça, mais on peut aussi avoir la passion de la musique ou l'intérêt pour la musique parce qu'il y a une culture de mélomane. Le fait d'écouter beaucoup de musique à la maison contribue à vouloir peut-être participer, en tout cas ça en fait partie, participer à une pratique culturelle dite de musique, pratique culturelle amateur. Donc, importance souvent déterminante du contexte familial sur la transmission des passions culturelles, surtout si on prend en compte le fait que les frères et les sœurs arrivent en deuxième position des passeurs, 17%, et les grands-parents en cinquième, 7%, après les voisins et les amis, 11%, et les enseignants, 8%. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'individus, beaucoup de possibilités pour des transmissions culturelles. Au total, si on tient compte de l'influence de tous les membres de la famille, on constate que seulement une personne sur cinq a reçu une passion d'une personne extérieure au cercle familial dans le domaine culturel, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres cas, qu'il s'agisse du sport, du bricolage, de la pêche ou de la chasse. Mais ces loisirs, il faut rentrer un petit peu dans le détail, dépendent plus des ressources et de l'environnement que du temps libre. Ça, c'est Minger qui dit ça, Minger sociologue. Une propension aux loisirs culturels est plus affirmée, par exemple, chez les femmes. Je vous parle de pratiques amateurs, je ne vous parle pas de pratiques professionnelles. Puisqu'on va voir que dans le milieu professionnel de la musique, les femmes ne sont pas très bien représentées. Donc il y a un arbitrage entre ressources financières et temps libre. Par exemple, l'effet du revenu disponible affecte très significativement la propension au loisir. C'est une composante spécifiquement économique de l'inégalité d'accès au loisir et singulièrement de l'inégalité d'accès au loisir culturel. Les loisirs ont presque tous en commun d'être plus coûteux que les loisirs du quotidien ordinaire. Donc il y a des inégalités d'accès au loisir. Loisir des actifs, c'est Coulanges, Minger et Roary qui en 2002 qui disent, qui ont écrit cet article, loisir des actifs, reflet de la stratification sociale. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du temps libre. C'est-à-dire, les différentes formes de réduction du temps de travail, les RTT, constituent la clé de l'impact redistributif des pratiques de loisirs. Les premières études d'impact des lois Aubry font apparaître que les cadres ont aujourd'hui plus facilement accès aux formules de réduction sous forme de journées ou de demi-journées de congés supplémentaires, qui seront les plus amenés à favoriser le développement des pratiques de loisirs, qui sont les moins soumises au quotidien. Tandis que les employés, surtout les ouvriers, ne se voient le plus souvent offrir qu'une modulation de la durée journalière du travail. Donc on voit ici que cette inégalité de temps libre, elle est aussi due à des choix de société, des choix politiques, mais des choix de société, qui influencent aussi le rapport aux pratiques de loisirs. La diffusion des loisirs, et en particulier les loisirs culturels, est soumise à deux ordres donc d'inégalités, qui cumulent leurs effets. D'abord, inégalité d'accès aux différentes échelles du temps libre, on vient de le voir, et inégalité d'accès aux ressources monétaires et culturelles impliquées dans les loisirs d'autre part. Donc les effets sociaux des politiques d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être correctement anticipés sans prendre en considération cette double inégalité. Bien évidemment, en disant ça, Coulanges s'adresse particulièrement au pouvoir public. Alors, l'état des lieux des pratiques de loisirs. C'était ça. Maintenant, voyons les musiciens professionnels. D'abord, le statut d'intermittent du spectacle, qui est une exclusivité française. Minger, encore, lui, on a fait une sociologie de l'exception. Il a écrit un ouvrage, il y a quelques années, assez récent d'ailleurs, 4 ans peut-être, sur les intermittents du spectacle, sociologie d'une exception. Pour dire vite, c'est quoi le statut d'intermittent du spectacle? C'est un statut juridique qui permet aux artistes et aux techniciens du spectacle vivant de vivre leur métier avec l'assurance d'être payés les périodes de non-travail, mais à certaines conditions. C'est donc une assurance chômage. Mais il n'y a pas que ce statut. Certains musiciens sont RMistes. Dans un article Direction des études, Direction des études et de la prospective, département, merci de suivre. Département des études et de la prospective, vous pouvez voir ça sur .gouv. Vous faites .gouv, vous l'avez. Non, c'est pas .gouv, c'est gouvernement. Oui, voilà, oui, c'est ça. Vous avez les études de la prospective et des statistiques. Donc, les musiciens. Il s'agit de la profession artistique du spectacle numériquement la plus représentée et celle dont les effectifs ont le plus augmenté au cours des dernières années. Les musiciens constituent aussi la première catégorie en effectif parmi les demandeurs d'emploi des métiers du spectacle. En 2006, il y avait 33 600 demandeurs d'emploi musiciens, soit un quart des demandeurs d'emploi des métiers du spectacle, contre 21 000 demandeurs comédiens. Deuxième population d'effectifs. Eh bien, cet effectif a augmenté de 39% entre 1997 et 2006, c'est-à-dire une augmentation de 40% en 10 ans, ce qui est énorme. Les demandeurs d'emploi musiciens présentent globalement les caractéristiques suivantes. 78% sont des hommes, donc une grosse majorité d'hommes, proportion qui est supérieure par rapport aux femmes, on s'en doute. C'est aussi ces demandeurs d'emploi sont moins concentrés sur l'Île-de-France et Paris que les autres métiers du spectacle. 28% des demandeurs d'emploi musiciens en Ile-de-France, 13% à Paris, contre respectivement 46% des demandeurs des métiers du spectacle. C'est le métier du spectacle le plus concerné par l'inscription de longue durée à la MPE. 63% des inscrits le sont depuis un an et plus, 35% depuis 3 ans et plus, contre 58% pour l'ensemble des métiers du spectacle. Ils sont souvent bénéficiaires des minima sociaux, RMI, c'est plus le RMI d'ailleurs, c'est le RSA, merci. C'est un article donc qui date de... Bon, alors, peut-être pas de 85, pas de 85, mais de 2006. De 2007, pardon. Donc ils sont le plus souvent bénéficiaires des minima sociaux, 16%, contre 13% en moyenne pour les métiers du spectacle. Donc aujourd'hui, vouloir vivre de la musique expose sans conteste à une précarisation. Dans l'orientation d'un choix professionnel, la question est toujours de savoir comment vivre de la musique, faute de la faire vivre. Aujourd'hui, avec le système capitaliste, ou néolibéral si vous préférez, et la figure de l'artiste créateur autour de la notion d'innovation, les questions artistiques sont devenues des questions qui soulèvent la notion de viabilité économique, à la fois pour les pouvoirs publics, mais aussi les marchés du spectacle, et bien sûr, pour le musicien. On peut parler de viabilité économique pour une carrière personnelle. Il semblerait que nous ne soyons plus dans une époque où l'aspect sacrificiel de l'art est la condition nécessaire et vertueuse contre le monde de l'argent ou le monde des affaires. Je vous renvoie au XIXe siècle avec Flaubert, Manet, Courbet, Baudelaire, etc. Enfin, je vous dis etc., mais peut-être que vous voudriez la liste, mais la liste est longue. Entre ceux qui sont connus et ceux qui ne le sont pas, pour cela, je vous renvoie à l'étude magnifique et très belle de Bourdieu dans les règles de l'art. Alors, est-ce que cela signifie que les questions autour de l'éthique et de l'esthétique, puisque l'aspect sacrificiel est né dans cette période-là, au XIXe siècle, est-ce que ça signifie que les questions autour de l'éthique et de l'esthétique, de l'œuvre, de l'aspect critique d'une œuvre, n'est plus possible? Peut-être. Beaucoup moins développé en tout cas chez les musiciens que les autres artistes. Cette position critique, pourquoi? Parce que les musiciens sont souvent interprètes. Je ne suis pas en train de parler des chanteurs. Je vous parle des musiciens. Je parlerai des chanteurs plus tard. Mais si l'art veut encore jouer son rôle de machine à faire penser, comment un artiste musicien peut-il espérer faire vivre un art, créer une œuvre en étant intermittent du spectacle? C'est-à-dire cette précarisation dont je vous parle. Puisque l'intermittence du spectacle concerne plutôt quelque chose de personnel, individuel. Alors que le statut d'intermittent relève d'une situation individuelle, faire vivre son art consisterait à l'organiser en tant que force collective. Est-ce que cela est possible? Donc il y a un constat. Les actes de la contestation artistique, enfin musicale, chez les chanteurs, particulièrement on va en parler, vont avec le militantisme. Ça, c'est une figure classique de l'artiste engagé. C'est-à-dire qu'il met son talent et son renom au service de causes qui lui tiennent à cœur. Ça, c'est un ouvrage qui s'appelle « Art et contestation » de Justine Baladinsky et de Lilian Mathieu, qui interviendra, donc en 2006, Lilian Mathieu qui interviendra sur Wagner et la philosophie, ici même. Ici ou au TNP? Au TNP, mais en tout cas dans le cadre de l'université populaire. Alors, cette figure classique de l'artiste engagé, c'est se placer sur le terrain des luttes collectives dont le monde de l'art est le terrain ou l'enjeu. Ça, c'est la deuxième possibilité, excusez-moi, je refais. Figure classique de l'artiste engagé, mettre son talent et son renom au service de causes qui lui tiennent à cœur, mais c'est aussi se placer sur le terrain des luttes collectives, d'accord, donc le militantisme, dans le monde de l'art qui en est le terrain et l'enjeu. Par exemple, l'association culturelle et collective d'artistes. C'est aussi insérer son travail au sein du monde de l'art par une œuvre critique qui est accompagnée d'une analyse critique du monde de l'art et de sa production. C'est par exemple Hans Hacke, qui est un artiste allemand. ou encore la transgression qui fonde la démarche de l'art contemporain. Donc vous voyez, il y a trois choses là qui vont vers la contestation, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que insérer un travail au sein du monde de l'art, à l'intérieur du monde de l'art, c'est donc être dans le monde de l'art, fabriquer une œuvre d'art, et critiquer le monde dans lequel nous plaçons notre œuvre d'art. Donc c'est une forme de critique artistique et critique de l'académisme, en tout cas une forme d'académisme. Et que dire alors des mouvements à la fois artistiques et politiques, et pourtant opposés, entre par exemple surréalisme et situationnisme? Le situationnisme, vous voyez ce que c'est, en 57, ça a été utilisé dans les années 60, enfin en 68 particulièrement, dans les années 57, c'est un mouvement qui exige de changer le monde tout en rompant avec l'avant-garde surréaliste. Donc on a des mouvements qui peuvent se ressembler, c'est-à-dire changer le monde, comme le surréalisme aussi, il y avait un désir en tout cas de changer le monde de l'art, de changer la vision de l'art, mais en même temps le situationnisme veut changer aussi le monde, mais a plus, en tout cas, une intervention qui est mélangée avec le côté politique et artistique. Alors, le concert. Le concert, ça reste quand même le lieu efficace du message contestataire et des usages militants de l'art. L'artiste peut s'adresser au public, et son message est souvent assimilé à l'événement qui est organisé. Du moins le chanteur. C'est lui la figure de proue. Alors encore, Balanzisky et Lilian Mathieu établissent des traits communs entre certains modes d'action ou de préoccupation des artistes et des contestataires. D'abord, les manifestes. Ce sont des gens qui écrivent des manifestes. Vous ne les avez peut-être pas lus, mais ils écrivent des manifestes. Il y a une dimension collective. Il y a un enjeu aussi de la reconnaissance. Et une importance des ressources qui sont mobilisées pour faire émerger et développer des mouvements. L'art engagé social, on pourrait l'appeler comme ça, l'art engagé social d'aujourd'hui, semble être un héritage des batailles romantiques du 19e. À partir de 1830, effectivement, avec les bouleversements sociaux et politiques, l'orientation vers l'art social a un rapport avec les idées socialistes, donc on est quand même presque première moitié du 19e, et on a aussi un mouvement qui s'appelle l'art pour l'art, qui est défendu par Baudelaire et Flaubert, qui est un monde d'audace et de transgression, et qui critique un art bourgeois dans sa conception de l'art, c'est-à-dire que l'art bourgeois refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Donc il y a un art bourgeois, mais il refuse de les voir telles qu'elles sont. Revenons à la musique, et plus particulièrement à la chanson. L'exemple de Zebda, dont parle aussi Art et Contestation. Qu'est-ce qui se passe avec Zebda? D'abord, il y a une éthique militante qui est citoyenne. Il y a un nouveau langage musical. On veut faire entendre sa voix. Il y a une prise de parole dans l'espace public. Et on veut témoigner et être le porte-parole des jeunes issus de l'immigration, puisque Zebda a été initié par Mousse et Hakim, qui sont en fait deux jeunes issus de l'immigration. Quelque part, ils ont le même âge que Rachid Tahar. Donc on est loin des Faudel, on est loin des chefs mamies, d'ailleurs, qui ne supportent pas. Il y a une revendication du métissage, avec une quête de la reconnaissance de ce métissage, et il y a aussi un itinéraire musical qui est collectif. Il y a aussi le fait de se référer à d'autres groupes qui font partie des mêmes idées, du même militantisme. Par exemple, le Massilia Sound System. Il y a aussi une critique de la variété internationale, du rap commercial, et en même temps, ce qu'ils appellent eux-mêmes une orientalité bidon, c'est-à-dire les chefs Mami et les Faudel, qui font partie des orientalités bidon. Ce sont leurs termes. Il y a une interpénétration entre pratique artistique et pratique politique, avec une mise en œuvre d'une conception politisée de la figure de l'artiste. Donc, on pourrait dire qu'il y a une mise en place de nouveaux modes d'action politique basés sur des artistes, musiciens et des chanteurs. désir de s'approprier aussi l'espace public pour faire de la politique autrement. Alors je sais qu'à Lyon c'est difficile de comprendre la culture toulousaine, mais c'est ce qui se passe dans le sud est un peu différent, nous allons le voir avec la ligne Maginot et les fabuleux troubadours. Il se passe quelque chose de différent dans le sud, peut-être aussi que c'est dû à l'ancienne querelle entre Languedoc et Languedoil, c'est-à-dire le rapport entre nord et sud, et la pratique d'une langue, parce que c'est une langue, ce n'est pas un patois ni un dialecte, qu'on appelle l'occitan, qui existe vraiment, ce n'est pas un patois, même si c'est vu peut-être par les parisiens comme étant, ou même le lyonnais qui est un second parisien, qui est vu peut-être aussi comme un patois, ou en tout cas quelque chose de rural. Donc on fait de la politique autrement, avec des activités associatives, des prises de parole publiques et des interventions dans les affaires de la cité. On a un engagement véritablement citoyen de la part de Zebda, ou en tout cas, si ce n'est pas que citoyen, c'est aussi militant. Voilà, parce que la citoyenneté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas que la carte d'électeur, c'est aussi une forme d'engagement. Engagement politique, chanson. Ça marche ensemble. Nous avons l'exemple aussi de la ligne Maginot, avec les fabuleux Alors la ligne Maginot, c'est un mouvement, donc Imaginote, hein, ça vient de la ligne Maginot, la ligne Maginot avec les fabuleux troubadours, Massilia Sound System, Nux Vomica, qui sont à Nice, la compagnie Lubaz, qui est dans les Landes, et les Fémoustés, qui sont un petit peu plus au nord, je crois, à Albi, et un petit peu plus au nord de Toulouse. Mais au nord de Toulouse, ça reste le sud pour nous. Donc c'est quoi? C'est un réseau de collectifs artistiques et d'associations militantes qui se destinent à promouvoir un mot d'ordre qui est un manifeste, le manifeste multiculturel et interrégionaliste qui a été écrit en 1984 par Félix Castan, qui est un penseur et écrivain occitan et militant de l'occitanisme. Donc il y a un rapport entre art et population. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est sympathisant de l'Occitan qu'il va y avoir justement une forme de particularisme à défendre. Bien au contraire, c'est contre la décentralisation culturelle jacobine, première chose, cette ligne Maginot. On chante en Occitan, ou eux-mêmes appellent ça des dialectes, ils font exprès, hein. C'est comme la culture... Je suis nègre et j'en suis fier, voilà. C'est-à-dire se réapproprier le vocabulaire aussi des dominants, ou en tout cas de ceux qui nous attaquent, pour repenser et quelque part dédramatiser la situation, ou du moins la démystifier. Et on alimente, c'est pour ça que c'est un manifeste multiculturel et anti-régionaliste. Je ne sais pas si j'ai dit anti-régionaliste d'ailleurs. Où j'ai dit inter. Eh ouais, peut-être que j'ai dit ça. C'est anti-régionaliste, hein, c'est pour ça, hein, d'accord. C'est anti-régionaliste. Multiculturel et anti-régionaliste, c'est-à-dire que culture qu'on va trouver dans le Sud, les cultures du Sud, vont s'inspirer de ce multiculturalisme à la française, c'est-à-dire une forme de laïcité aussi, dans la création musicale. Donc on va alimenter la créativité artistique par de multiples influences culturelles. On a encore dans les mouvements collectifs, mais on pourrait en citer beaucoup, on a aussi les artistes américains qui se sont mobilisés contre la guerre en Irak en 2002. On n'a pas entendu parler peut-être, mais des artistes se sont mobilisés en Irak, contre la guerre en Irak en 2002. Une autre culture, mais beaucoup plus culture, du militantisme ou de l'engagement, c'est le rap. Le rap, selon Schusterman, qui est un art post-moderne, c'est-à-dire qu'il y a une démocratisation des outils d'enregistrement, la cassette, entre autres, le disque, le vinyle. Et pourquoi dit-il Schusterman que c'est un art post-moderne? Parce qu'il va réutiliser des choses déjà existantes, les manipuler, les changer, les transformer. C'est une récupération, on va dire, de la consommation des sons de notre culture occidentale. Et quelque part, c'est un rendez-vous culturel, un rendez-vous aussi politique, qui a vraiment marché. Parce que vous voyez, il n'y a pas, c'est comme le rock, il n'y a pas un seul groupe de rock ou un seul groupe de rap. Il n'y a que des groupes de rap ou des groupes de rock dans le monde entier. Le rap sénégalais existe, le rap italien existe, le rap français existe. Je suis sûr que le rap du Singapour existe aussi. Enfin, c'est une proposition, il faudrait vérifier. Donc il y a quand même un rendez-vous qui a réussi d'un point de vue commercial, c'est que la vente de disques se compte par milliers, et même en millions. Malgré la piraterie, on achète encore des disques de rap. Ou en tout cas, il faudrait voir, mais on a acheté, peut-être jusqu'à hier, des disques de rap. Ça continue. Il y a aussi, selon Vanessa Pinto, qui est sociologue, une invention d'un mode qui est un peu inclassable. C'est, par exemple, Shirley et Dino. Alors, vous trouvez peut-être bizarre que je parle de Shirley et Dino, qui est la mise en scène, en fait, d'un populaire parodique qui, dans un contexte de disqualification du populaire, est moins ambigu et passe beaucoup mieux, moins risqué, que la représentation théâtrale, par exemple, des Deschiens. Parce qu'on se demande si les Deschiens, c'est pas vrai. Enfin, beaucoup de gens m'ont dit, mais est-ce que c'est du premier ou du second degré? Alors que chez Shirley et Dino, on voit bien, justement, que ce populaire parodique, dans ce contexte de disqualificatoire de populaire, est moins ambigu. On pourrait aussi parler de l'accès aux femmes, l'accès des femmes aux professions artistiques, mais il y a une forte compétitivité dans la musique classique, par exemple. Les choses sont en train de changer, mais très doucement, très lentement. Tout cela, ça pose la question aussi de ce militantisme ou de ce surréalisme ou encore du rap ou encore du situationnisme, de l'engagement militant avec Zebda, avec Massila Sound System, avec IAM aussi. Tout cela pose la question de la récupération lorsqu'une œuvre trop politique ou provocatrice est neutralisée, dit Schusterman, par sa réinscription dans les institutions du monde de l'art. Mais Bourdieu ne dit pas autre chose lorsqu'il soulève les problématiques des récupérations posthumes, parce qu'il y a ça aussi. Quand on n'est plus vivant, on peut nous récupérer. Je ne sais pas ce qu'il reste, mais récupérer des œuvres, vous entendez bien. Les problématiques des récupérations posthumes d'auteurs hérésiarques comme justement Flaubert ou Baudelaire, qui avaient été condamnés à leur époque, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est que d'être condamné pour une chose artistique. Ça existe encore, mais c'était un contexte, c'était en France, c'était à Paris, tout le monde était au courant, le journalisme en avait parlé en tout cas. Et ces auteurs ont été interprétés, c'est ça la réactivité posthume, ont été interprétés de manière souvent hagiographique par les lectors, les lectoresses, les lettrés lecteurs des milieux académiques. Donc voilà, je vous ai fait sentir un petit peu, très rapidement, je suis allé vite, je m'excuse, mais comme j'avais beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je suis allé aussi vite. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions avant que j'engage la phase position critique de l'artiste? Bon, ça va? Vous avez compris? Ça va pas trop vite? Bien. Alors, pour Becker, Howard Becker, sociologue américain, l'art est une activité collective, avec des divisions du travail, fabrication, création, diffusion, des chaînes de coopération, et l'artiste dépend d'autres personnes pour faire aboutir l'œuvre. Il y a aussi des conventions, qui est un personnel spécialisé, qui coopère selon des modalités bien définies. Donc il y a tout un monde. C'est les mondes de l'art. Donc pour Becker, ces mondes-là, ou ce monde de l'art, est fait pour ceux qui conçoivent l'idée de l'œuvre, ceux qui l'exécutent, ceux qui fournissent l'équipement matériel nécessaire, et ceux qui constituent le public de l'œuvre. Bon, ok pour la production de l'art comme action collective. Mais les mondes de l'art, ce n'est pas seulement des agents individuels qui sont en interaction ou en coopération, parce que vous voyez bien le terme coopération, vous voyez, le tableau peut sembler idéal. Ah, tout le monde coopère, tout va bien, c'est bien, la coopération. Ben, c'est une vision un peu trompeuse et qui peut être aussi inquiétante, parce qu'elle ne considère pas les relations objectives qui sont inscrites dans l'histoire, c'est-à-dire les enjeux de lutte qui visent à transformer ou à conserver les structures du monde dans lequel on est investi par des compétitions implicites ou explicites. Et je sais de quoi je parle, puisque je suis aussi musicien. Mais en même temps, je vous ai dit, on n'est pas obligé de vivre la chose pour en parler, donc il faut imaginer. Pour pouvoir imaginer, il faut un petit effort, un effort de pensée. Baudelaire dit par exemple qu'il est impossible qu'un poète ne contienne pas un critique. Impossible qu'un poète ne contienne pas un critique. Et il y a un très beau passage de Hosty qui préface l'art romantique chez Baudelaire, qui dit ceci. Dans la mesure où la bataille romantique, opposée à l'esprit de routine, la bataille romantique, c'est s'opposer à l'esprit de routine pour créer un élan, enfin donc s'opposer à l'esprit de routine, l'élan créateur, la recherche d'une forme nouvelle pour exprimer une sensibilité nouvelle. Et bien en faisant ça, Baudelaire se place sans hésitation dans les rangs des novateurs, jouant sa variation personnelle sur le thème énoncé par Stendhal. Il a dit que le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Le romantisme n'est précisément ni dans le choix de sujet, ni dans dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. D'où la conclusion, qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimée par tous les moyens que contiennent les arts. Voilà, le romantisme comme art moderne. C'est important de le resituer dans le contexte, au XIXe siècle, parce qu'il va y avoir tout un mouvement qui va durer. Bon, il commence avant, le romantisme, on s'imagine toujours que c'est Chateaubriand. Bon, il n'y a pas que Chateaubriand. Baudelaire se réclame de l'art romantique. Mais Baudelaire, c'est pas Chateaubriand, parce que Chateaubriand, c'est beaucoup plus tôt, déjà. Et bien, cette bataille romantique va exister avec les contextes politiques, va exister avec les contextes sociaux, puisque le XIXe siècle, en France, tout du moins, est vraiment un siècle de révolution, de multiples révolutions. Donc il est important aussi, pour continuer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire la suite des batailles romantiques, c'est Flaubert et la notion de comprendre. Le fait qu'ils disent « tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps », donc un travail d'identification mentale. Le fait de pouvoir vivre toutes les vies. Pour Wittgenstein, il disait « je n'interprète pas, comprendre, c'est utiliser concrètement ». Donc comprendre n'est pas interpréter, c'est utiliser concrètement. Ça veut dire que si vous pensez comprendre quelque chose, si vous ne l'utilisez pas concrètement, ce n'est pas un travail de compréhension. C'est vrai que ça change un peu de la morale chrétienne. Comprendre, c'est donc s'armer d'outils qui permettent de placer chacun quelque part, si possible à la bonne place, et d'utiliser l'imagination comme les savants acceptent l'inconnaissable, mais affirment que la recherche n'a aucune limite. On peut accepter l'inconnaissable, mais il n'y a pas de limite à la recherche. Alors ce n'est pas le cas de tous les artistes qui ont plutôt tendance, pour la majorité, à profiter des avantages mythiques du créateur qu'à construire une esthétique collective de l'éthique. Donc le rapport entre l'esthétique et l'éthique. Ce qui est le cas de Baudelaire qui a concilié l'inconciliable, c'est-à-dire des esthétiques prises dans différents mouvements et des éthiques prises dans différents mouvements aussi. Les effets psychologiques et sociologiques de la précarisation n'aide pas à y voir clairement ce que nous fabriquons aujourd'hui. Pourtant, La position critique, c'est la position du critique. Encore une fois, Paul Valéry qui cite Baudelaire. Qu'a fait Flaubert, par exemple ? Flaubert bourgeois a rompu avec le bourgeois. Engels, le copain de Marx, a rompu aussi avec la bourgeoisie. Faut pas oublier Engels quand on parle de Marx. Il y a donc un travail de rupture avec un enracinement social. C'est aussi ça, la position critique, qui est une autre forme de militantisme. On ne parle pas de militantisme on ne parle pas que de militantisme dans ce cadre-là. On parle de position critique. Ça a l'air de se faire mousser et d'être mieux, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ça peut être aussi, si on n'y fait pas attention, une forme d'élitisme. Et l'idée, c'est justement de rompre aussi avec cet élitisme, de rendre conciliable l'inconciliable. Donc il y a un côté idéal, la recherche du beau aussi, bien sûr. Mais comment un beau peut-il s'organiser rationnellement ? Un travail de rupture, donc, je disais, avec un enracinement social, qui permet de se consacrer aux luttes contre le vrai pouvoir, c'est-à-dire celui d'en haut. C'est vrai que les gros, si on s'imagine les gros qui sont en haut, hein, c'est une façon de parler. Les gros, moi aussi je suis gros. Donc, hein, vous voyez, ceux qui sont en haut, quoi. Bon. Non mais ne me regardez pas comme ça. Ceux d'en haut. C'est-à-dire que les gros, ils comptent sur le fait que les petits se bouffent entre eux, vous voyez. Comme ça, ça ne nous intéresse pas ce qui est en haut. Bah, l'école, ça n'intéresse plus les jeunes, bah, c'est en haut, ça. Non, l'accès au diplôme. Ma grand-mère me disait, il faut aller à l'école. Aujourd'hui, on ne va plus à l'école, puisqu'apparemment, ça ne sert plus à rien. Ça ne produit pas les effets qui étaient escomptés avant, c'est-à-dire une ascension sociale, ou en tout cas un bouleversement social. Il y a de fortes chances, début 20e, première moitié du 20e, qu'il y ait des professeurs brillants qui viennent du milieu populaire. Il y en a plein. Hein? Donc, lutter contre ceux d'en haut, ou du moins avec pas seulement avec des actions sociales, mais aussi des actions esthétiques et éthiques, c'est l'invention de la vie d'artiste au XIXe siècle. C'est un vrai enjeu, l'invention de la vie d'artiste, je vais en parler ensuite. Ces recherches sont autant de formations pour pouvoir écrire, être libéré, composé, fabriqué en dehors des mondanités ou des formes de mondanité. C'est un travail sur les marges. Et c'est vrai que la position critique, je dirais qu'elle a quelque chose de laïque, au sens de Durkheim et Jaurès. Durkheim, vous voyez, le père fondateur de la sociologie française, même époque que Jaurès, ou un peu plus... il a duré un petit peu plus longtemps que Jaurès, ouais. C'est un positiviste, on va dire, mais qui critique le positivisme. Durkheim disait quand même, pour que les hommes arrivent à vivre entre eux, c'est quand même qu'ils doivent s'aimer. Et c'est très spirituel, comme il devait avoir bu un coup ce jour-là, je ne sais pas. La position critique a quelque chose de laïque, c'est Jaurès aussi, avec Jaurès anticolonialiste, Jaurès, une espèce de miracle dans la Troisième République. Alors, le XIXe siècle, il ne faut pas oublier les contextes. Hein. C'est Paris, la jeunesse et son espace des possibles. C'est Rastignac dans le Père Goriot qui dit à nous de Paris, je vais en découdre, je viens de la province, tu vas voir ce que tu vas prendre. Voilà, je vais en découdre avec toi, c'est-à-dire que Paris, c'est en haut, justement, on dit monter à Paris, c'est en haut, c'est là où toutes les révolutions ont eu lieu, la culture c'est là-bas, donc il y a un côté, quand on arrive à Paris, quand on est jeune, il y a un côté, je vais en découdre avec cette légitimité, je vais en découdre avec ce côté puissant, ce côté historique. Je vais faire partie de l'histoire. Mais il y a aussi des relations entre des révolutions. C'est-à-dire que les romantiques, la bohème, les réalistes, les parnassiens se connaissaient. Ils se fréquentaient. C'est ça le monde de l'art aussi, le monde en tout cas littéraire et artistique du XIXe siècle. C'est que tout le monde se fréquente, se critique. C'est une forme d'autonomie. Autonomie qui veut dire créer ses propres lois. Et c'est le monde que nous connaissons aujourd'hui. Le monde littéraire et artistique que nous connaissons aujourd'hui est né, selon Bourdieu, c'est argumenté, au XIXe siècle. Donc ça a jalonné le XIXe siècle, pas que de révolutions symboliques, c'est-à-dire des révolutions artistiques, mais aussi des révolutions politiques, sociales et artistiques, on dirait aujourd'hui culturelles, des révolutions culturelles. Et c'est par l'étude de ces mondes, c'est-à-dire faire une intuition structurale, si on peut parler comme ça, une intuition structurale, une réactivation. En étudiant ces mondes et ces révolutions, ces mouvements, que l'on peut peut-être, aujourd'hui, espérer trouver des propositions à la création actuelle. Nous avons hérité de l'imaginaire autour de la vie d'artiste, qui est une ruse de l'histoire. Hein ? Quand il y a un gamin dans une famille qui n'est pas comme les autres, on dit « Oh, ben quel artiste celui-là » alors qu'on ne l'a jamais vu peindre ou quoi que ce soit. Donc déjà, la ruse de l'histoire est aussi là. Quel artiste ? Donc l'artiste n'est pas sérieux, bien évidemment. Donc nous avons hérité de cet imaginaire autour de la vie d'artiste, sans savoir véritablement les efforts incroyables, les énormes difficultés psychologiques et sociales de rupture qu'il a fallu mener pour arriver à créer ce monde artistique et littéraire que nous connaissons aujourd'hui. Et ce monde, on pourrait dire qu'il est en grande difficulté, parce que toutes les conquêtes d'autonomie, de séparation du monde de l'art avec celui de l'argent, a été arraché difficilement et douloureusement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec au sommet de ses conquêtes Zola et l'affaire Dreyfus. Zola, il n'est pas arrivé n'importe où. Il n'est pas arrivé n'importe. Alors, je vais dire n'importe quand. Non, il n'est pas arrivé n'importe où et n'importe comment. C'est la suite. Zola, c'est aussi la Troisième République. Alors, je ne suis pas pro-Troisième République, hein. Je suis moi-même anticolonial, mais voilà, c'est. C'est important de le rappeler que la Troisième République a aussi créé des individus qui ont critiqué leur monde. Et c'est vers cela dont il ne faut pas hésiter à aller chercher comme dirait Bourdieu, ces hérésiarques, ou hérétiques si vous préférez. Donc toutes ces conquêtes de l'autonomie, de séparation du monde de l'art avec celui de l'argent, sont menacés par la mise en place d'une exploitation sans limite du système néolibéral. Et Hans Hacke va même jusqu'à dénoncer le recours aux mécènes. Hans Hacke, si vous ne voyez pas qui c'est, je pense que vous tapez Google sur Internet, il fait du détournement. Il fait du détournement d'œuvres. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de avec un paquet de Marlboro, il marque Helmsboro, puisque en fait c'est produit par Helms, et il travaille justement à construire une critique sociale par le détournement, en changeant des petits détails, y compris, comme il est allemand, sur l'art qui était revendiqué, parce qu'il existait aussi cet art revendiqué sous le régime nazi. Il y avait un art nazi, oui. Un très joli passage du cinéma, on ne trouve que des choses jolies, à croire qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Un très joli passage de la lucidité de Bourdieu sur Baudelaire et de sa position. Cette position génératrice d'une extraordinaire tension et d'une formidable violence, il l'a lui-même produite, on peut même dire inventée, en s'opposant à des positions opposées entre elles, c'est-à-dire le fait de s'opposer à des positions opposées. Je ne vous dis pas la tension et la violence. Moi j'appelle ça de la violence. Faire violence, c'est une violence qui a l'air de rien comme ça, mais c'est une violence énorme que de s'opposer à ceux qui s'opposent. Et il a tenté de réunir, sans concession conciliatrice, des propriétés et des projets entre eux profondément opposés et socialement incompatibles. Si, comme je le crois, Ce modèle vaut pour tous les auteurs des grandes révolutions symboliques. C'est sans doute qu'ils ont en commun de se trouver placés dans un espace des possibles déjà fait, qui, pour eux et pour eux seuls, désigne un défaut, désigne par défaut un possible à faire. Donc l'imagination, c'est aussi désigner, c'est aussi identifier des possibles à faire. Cet impossible possible, à la fois rejeté et appelé par cet espace qui le définit, mais comme vide, comme manque, eh bien il travaille à le faire exister, envers et contre toutes les résistances que le surgissement du possible, structurellement exclu, fait surgir dans la structure qu'il exclut, et chez les occupants bien assis de toutes les positions constitutives de cette structure. Je vous rappelle Flaubert et Baudelaire condamnés, l'un pour les fleurs du mal, l'autre pour Madame Bovary. C'était du sérieux à cette époque. Eh bien, je suis allé très vite. Très, très, très vite. Je voudrais remercier à ceux qui sont venus les quatre fois d'être venus quatre fois.